Bonsoir à vous tous. Je remercie le professeur Olivier Abel de m'avoir invité à parler ce soir. Dans cette nuit de l'éthique, j'espère que le titre ainsi ne signifie pas que nous entrons dans une nuit éthique, une nuit de l'éthique, mais il faut lutter dans la nuit contre la nuit. Je suis professeur de philosophie, je vous parlerai de la Grèce. On vous racontant deux, trois histoires. La première commencera avec une vieille légende grecque, une légende d'après laquelle un dieu se promenant avec un sac de cailloux sur l'épaule laisse tomber le sac de cailloux, il tombe par terre, et cela vous donne la Grèce. Alors, certains parmi vous sont allés en Grèce, je dis que ce n'est pas du tout l'image que vous avez de la Grèce, mais la Grèce l'été en vacances, c'est une chose, la Grèce toute l'année et la Grèce dans l'Antiquité, c'est autre chose. Il y a peu de terre, peu de bonnes terres à cultiver, c'est un pays ingrat. Difficile. Donc c'est un miracle grec, miracle déjà, que d'avoir vécu dans ce pays-là, d'avoir civilisé. La deuxième histoire sera dans la continuation de la première. C'est un souvenir d'enfance de Nikos Kazantzakis. Il raconte que lorsqu'il était enfant, donc son père était un paysan en Crète, la vie, vous imaginez, donc la vie dure, c'était donc il y a à peu près 100 ans, un peu plus, je crois, et voilà que ce père donc travaille dur la terre pour nourrir à peine sa famille, voilà qu'il y a une récolte, comme chaque année au mois de septembre, récolte de raisins. Et comme beaucoup de Crétois, dans ce village, dans le village de Nikos Petit, les paysans font sécher le raisin sur des clés, et quand le raisin est sec, ils le vendent, ce fameux raisin de Corinthe, comme on l'appelle, voilà, raisin sec, qui sert, donc qui fait venir un petit pécule dans la famille. Et voilà qu'une année, au mois d'octobre, pendant la nuit, un violent orage vient et détruit toute la récolte dans le village. Nikos, le matin, le petit garçon se réveille avec son père, et il pleure, parce qu'il voit le désastre, il n'y aura rien, il n'y aura pas de récolte, donc il faudra serrer la ceinture et manger les cailloux. Et le petit garçon qui pleure se tourne vers son père et lui dit « Papa, nous avons tout perdu. » Et son père lui dit « Non, nous sommes toujours là. Non, nous sommes toujours là. » Voilà, magnifique leçon de courage, c'est pas de la rhétorique, c'est pas grandiloquent, c'est sobre, nous sommes toujours là. Et ça, c'est le courage en acte. Puisqu'il est question de courage, cet exemple de courage me paraissait magnifique. Alors, je continue en prenant un autre, on parle encore d'un grec, Héraclite, que vous connaissez. En grec, si vous permettez une phrase en grec, polemos pater panton. Polemos, la guerre c'est féminin en français, c'est masculin en grec. Comme Thanatos, c'est masculin en grec aussi, la mort. Donc polemos est le père de toute chose. Donc la guerre est le père de toute chose. Je vous propose de méditer cette parole d'Héraclite. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que la guerre est le père de toute chose? Alors ça sonne mal en français. Polemos, donc le conflit, est le père de toute chose. Nous pouvons le prendre au premier sens en voyant d'abord que partout il y a des conflits. Vous vous rappelez que l'essence de la tragédie, Aristote a écrit des pages immortelles sur la tragédie grecque, l'essence de la tragédie, c'est le conflit au cœur des alliances. Que deux ennemis se nuisent, c'est courant, ça se voit tous les jours. Mais que deux frères s'entretuent, Abel et Caïn, c'est beaucoup plus... C'est tout à fait différent, et c'est ça le tragique. Donc la violence au cœur des alliances, au sein d'une famille. La violence au sein d'une même société. La violence aussi au sein d'une même civilisation. Nous avons sous les yeux aujourd'hui de nombreux exemples de violence au cœur des alliances ou qui défont d'anciennes alliances. Donc en ce sens-là, Polémos est bien le père de toutes choses parce que nous constatons que partout où il y a des humains, il y a de l'alliance, heureusement il y a du lien, mais en même temps ces liens sont toujours fragiles, menacés par nos propres fautes, menacés par nos infirmités, etc., précisément devenir à la ruine. Mais peut-être aussi que plus profondément, la parole d'Héraclite veut dire que c'est pas seulement à prendre au sens négatif, ça ne veut pas seulement dire partout où il y a des humains, il y a des conflits. C'est plus profond, parce que le père, c'est celui qui engendre. Et donc, ça veut dire que le paradoxe, c'est que la conflictualité engendre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a une fécondité de la conflictualité. Il y a une fécondité de l'opposition, une fécondité du différent. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être en désaccord les uns avec les autres, puisqu'il y a un désaccord qui peut être fécond. J'y reviendrai à la fin. Je passe au deuxième point de mon exposé, qui portera sur une recherche de l'essence. Vous savez, les philosophes ont bien l'essence. Moi, je ne mets jamais d'essence dans ma voiture, parce que je ne peux pas mettre de l'essence dans ma voiture. L'essence, ce n'est pas dans une voiture. C'est un concept. Enfin, ce n'est pas un concept, mais bon. Alors, l'essence, donc, qu'est-ce que c'est? Ben, nous cherchons l'essence du courage. C'est ce que font les philosophes. Je renvoie à l'éthique à Nicomaque, texte magnifique, Aristote fait un exposé des vertus. Et l'étrange, c'est que jamais il n'explique pourquoi il donne un certain nombre de vertus, pourquoi celle-ci et pas d'autres, et jamais il n'explique non plus pourquoi il commence par le courage. Donc quand il expose les vertus dont les humains sont capables, la première vertu qu'il met en scène, c'est le courage. Et il n'y a pas d'explication, mais il me semble que, puisque devenir vertueux, c'est tout un travail, comme il le dit. Donc j'étais malhonnête, je suis devenu honnête, j'en sais rien. J'étais avare, je suis devenu généreux, j'en sais rien non plus, mais ce sont des exemples simplement. Vous voyez bien le travail qu'il faut faire sur soi-même pour gagner un petit peu d'honnêteté, de prudence, etc. Donc c'est bien pour ça que c'est un travail, c'est bien pour ça que ça demande du courage. Le courage, donc, est bien ici quelque chose d'infiniment précieux, et c'est le courage de vivre dont j'ai déjà un peu parlé, mais je voudrais parler davantage du courage de la vérité. Alors, restons un instant avec le courage. Qu'est-ce que le courage ? Vous rappelez d'abord que le mot que nous traduisons par vertu, c'est, la traduction est un peu désagréable parce que c'est du latin, et le latin renvoie à l'idée de force. Quand vous lisez Machiavel, la vertu, la virtu, c'est la force. Tandis que quand Aristote parle de, en grec, c'est, excusez-moi de parler encore un peu grec, c'est arrêter, ça veut dire excellence. Donc vous voyez, quelqu'un qui joue excellemment du piano, du violon, c'est, il y a une vertu, comme on parle aussi, il en reste une trace, des vertus médicinales d'une plante. Donc c'est l'excellence d'une plante pour la guérison. Donc de ce point de vue-là, le courage est une vertu. Ça veut dire que c'est une capacité qu'a l'être humain d'exceller dans un certain domaine. Dans quel domaine ? Mais voyez bien que quand il y a du danger, certains sont très courageux, il y a même un titre d'un film, si j'ai bonne mémoire, c'est « Courage, fuyons ». Donc, le problème du danger, c'est précisément que le pire des dangers, c'est le danger de mort, et que tout homme devant le danger de mort, ressent un sentiment qui est parfaitement naturel et explicable, qui est la peur, voire la terreur. Je vous rappelle aussi que pendant des millénaires, la guerre a été le lot quotidien des mortels, et Aristote le sait très bien, puisqu'il vit, c'est un Macédonien, enfin, je ne vais pas raconter tout ça, mais vous voyez bien que, puisque la guerre est le lot commun des mortels pendant des millénaires, la question du courage est une question décisive. Et nous comprenons aussi pourquoi Aristote commence son exposé des vertus par le courage, parce qu'il vit dans une époque où la guerre est à peu près quotidienne. Je vous rappelle que pendant les deux grands siècles de son existence, Athènes a été en guerre à peu près un an sur deux. Imaginez les États européens en moyenne un an sur deux depuis deux siècles. On n'en est pas tout à fait là. Donc la guerre est un problème constant, permanent. Et par conséquent, faire face à la mort, faire face à l'ennemi qui vient donner la mort, qui vient tuer les hommes et emporter les femmes comme concubines, vous rappelez tous comment ça s'est passé. Et donc il faut du courage pour affronter l'ennemi, aller le combattre et vaincre, dans l'espoir de vaincre évidemment. Donc c'est dans ce cadre-là qu'Aristote parle d'abord du courage. Le courage, c'est la valeur, ou c'est l'excellence virile par excellence. En grec, ça se dit andria, donc ça renvoie à la virilité. Le courage, c'est masculin par excellence. Mais il y a un courage féminin, évidemment, je ne veux pas parler de cette question-là maintenant. Donc, qu'est-ce que le courage ? Eh bien, vous rappelez aussi que quand il y a une vertu, il y a toujours deux vices correspondants. L'un par défaut, l'autre par excès. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de manquer le courage, une par défaut, l'autre par excès. Par défaut, ça s'appelle la lâcheté. C'est celui qui, quand il voit le danger, s'enfuit, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, il ne se sent pas prêt, pas apte à faire face au danger, encore moins à vaincre, il n'a pas la pensée ou la force de caractère de croire qu'il peut vaincre. Et il y a celui qui ne voit pas le danger davantage, qui fonce sans avoir vu le danger, c'est celui qu'on nous appelons le téméraire. Donc vous avez deux façons de manquer le courage, la témérité et la lâcheté. Et entre les deux, vous avez un sommet, une excellence, qui est l'homme qui a peur, comme tout le monde, qui n'a pas peur devant la mort, présence véritable de la mort, mais cet homme-là est accoutumé au danger, il sait qu'il peut vaincre, il espère vaincre, il va au danger, il affronte la mort. Donc le courage, c'est d'abord le courage devant la mort. Alors pourquoi est-ce que je donnais un titre aussi étrange à mon exposé, le courage de la vérité ? Est-ce qu'il y a besoin de courage par rapport à la vérité ? Apparemment non, parce qu'il n'y a aucun danger. Un physicien qui fait des recherches dans un laboratoire ne risque rien. Peut-être que si, rappelez-vous que quelques-unes ont été irradiées, par exemple, ils ont manipulé des substances, donc ils ignoraient tout. Donc il y a bien un danger, vous l'avez partout le danger. Mais il y a un autre danger dont je voudrais parler, et en fait je voudrais parler de plusieurs dangers. Le courage à la vérité. Le courage à la vérité, rappelez-vous, il a pu conduire quelqu'un comme Socrate à boire des ciguës, et quelqu'un comme Jésus de Nazareth à être crucifié. Donc, le courage à la vérité expose à un danger véritable et nous retrouvons le danger suprême, qui est le danger de la mort. Alors, qu'est-ce que le courage de la vérité? Eh bien, il y a d'abord une première forme de courage qui est le courage face à l'opinion, le courage face à la doxa, face au troupeau, je ne sais pas comment parler, évidemment bête à cornes, comme dirait Nietzsche. Nous avons la doxa, le problème de la doxa, c'est qu'elle est comme l'île, vous avez coupé les têtes, ça repousse toujours, ils avaient toujours la doxa, chaque époque, chaque philosophe se bat avec la doxa, donc l'opinion, le on, donc en fait l'ignorance massive de son temps. Il faut bien du courage pour affronter l'opinion. Il faut du courage pour dire quelque chose qui est, en un sens, d'abord inaudible et qui fait que vous ne serez pas reçu, vous serez même blâmé, parfois rejeté. Donc ça, c'est la première forme de courage. Courage face à la doxa, face à l'opinion. Et il en faut à toutes les époques. Ensuite, le deuxième courage dont je voulais parler, c'est le courage proprement socratique, c'est le courage face aux sophistes. Alors là, si les sophistes, nous pourrions penser que c'est un combat gagné depuis longtemps, en fait, il a été perdu d'une certaine façon. Parce que Socrate a bu l'assidu, donc ce sont ses adversaires, les sophistes, qui l'ont vaincu. Peut-être qu'au deuxième degré, c'est Socrate qui a vaincu, mais l'issue est incertaine. Qu'est-ce que le courage face aux sophistes? Alors, je rappellerai des choses que certains peut-être connaissent, mais vous vous rappelez qu'il y a un vieux mot de la langue grecque qui est le mot eris, E-R-I-S, qui veut dire la lutte. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de polémos, maintenant je parle de la lutte. Lutte et méditation, nous en parlions tout à l'heure. Qu'est-ce que la lutte ici? Eh bien, la lutte, c'est l'attitude du sophiste face à autrui. Quand vous dialoguez avec autrui, vous pouvez dialoguer de plusieurs façons. Vous pouvez dialoguer parce que vous cherchez la vérité. J'y reviens, c'est la façon de faire de Socrate. Mais vous pouvez dialoguer avec autrui simplement pour le plaisir de lui faire mordre la poussière. C'est ce que fait le sophiste, Protagoras, Gorgias. Je ne vais pas faire un cours de philo là-dessus, mais je l'évoque simplement rapidement. Donc ça veut dire qu'il y a des personnages, ils sont toujours nombreux, et chacun d'entre nous peut l'être à son heure, dont le suprême plaisir est de dire « ouvre la bouche, débite tes arguments, je vais te faire mordre la poussière ». Parce qu'il n'y a peut-être aucun argument d'aucun être humain sur Terre qui soit tel qu'il n'y ait pas une difficulté, un embarras, un point d'attaque, un angle d'attaque, et donc un point par lequel on peut réfuter cet argument. Ouvre la bouche, débite tes arguments, je triomphe toujours. Ce que je viens de dire, c'est dans la bouche d'un personnage, dans une pièce d'Aristophane, qui met en scène Socrate. Donc, il existe une attitude que Socrate appelle héristique. C'est l'attitude qui ne cherche pas la vérité, qui ne cherche pas le dialogue, qui cherche simplement la polémique, polémos, polémique, mais la vaine polémique. Parce que cet homme-là ne cherche aucunement la vérité. Je pourrais en parler davantage avec Gorgias. On voit bien qu'il cherche simplement, je vous l'ai dit, à triompher. C'est comme au catch ou à la boxe. Vous êtes là face à un adversaire et il faut montrer que vous êtes le meilleur dans la joute oratoire. Donc ça, c'est le sens de la sophistique. Et voyez bien, j'en viens maintenant à un nouveau point, c'est un texte magnifique de Platon qui s'appelle le Ménon, dans lequel nous voyons Socrate en scène face à un jeune homme formé par les sophistes. Ce jeune homme s'appelle Ménon. Ménon, tu as parlé tout à l'heure, Olivier, du oui. Il ne dira jamais oui, Ménon. Il est incapable de dire oui. Et formé par Gorgias, il excelle, il croit exceller. Alors, imaginez, il est le champion de champion dans sa région, il va dans la capitale du monde qui est Athènes, dans l'espoir de combattre et de vaincre le champion du monde, Socrate. Et il espère, il faut lire le dialogue, c'est magnifique, c'est exquis, c'est extrêmement intelligent, mais vous verrez bien que Ménon veut faire mordre la poussière à Socrate. Il cherche des arguments pour l'éliminer, pour le faire taire, pour le mettre en difficulté. Il en trouve, il est très intelligent. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'attitude qui est la sienne. Parce que dans ce dialogue aussi intervient un autre personnage que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle Anytos. C'est celui qui, un peu plus tard, lancera le procès contre Socrate, procès qui conduira à ce que Socrate boira la ciguë, donc à la mort de Socrate, sa condamnation et sa mort. Anytos vient et profère des menaces de mort contre Socrate. Donc vous avez ici un dialogue tout à fait étonnant. Vous avez un philosophe. Qu'est-ce qu'un philosophe? C'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Je ne plaisante pas. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Vous avez, c'est une des phrases les plus connues de Socrate. Mais il ne fait pas semblant. Il est entouré de gens merveilleux, de gens qui savent tout. De gens qui sont bourrés de convictions et qui savent tout. Et il vient, alors, vous voyez bien, un homme qui écrit des beaux poèmes, il se rengorge. La poésie est belle, c'est beau. Socrate, s'il te plaît, peux-tu me dire qu'est-ce que la beauté? Il vous met dans l'embarras. Eh bien, il ne devait pas être très agréable, Socrate. Parce que quand vous croyez savoir, il vous fait sentir que vous ne savez pas. Vous avez donc l'attitude de Socrate qui ne sait pas, qui cherche l'essence dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la justice? Il est entouré de gens qui se sont persuadés qu'ils savent et qui sont prêts à tuer parce qu'ils savent qui est juste, qui est injuste, ce qu'est la justice, ce qu'est le juste et l'injuste. Et que fait Socrate? Il invite au dialogue. Et quand il est face à Ménon, il lui dit « Mon ami », c'est un des passages les plus bouleversants de toute la philosophie. Il est face à un homme qui vient simplement pour lui faire mordre la poussière, pour le terrasser. Je vous rappelle que Gorgias a écrit un livre qu'il a intitulé « Katabalontes Logoi », ça veut dire en grec « discours terrassant ». Donc, il donnait des cours, il se faisait payer très cher. Hein. J'ai calculé, c'est à peu près 10 000 euros le cours. Nous devrions faire pareil, cher Olivier. Vous vous rappelez que Gorgias aussi, de son vivant, a été le seul grec à s'être fait faire une statue en or massif de lui-même. Donc, ça rapporte gros. Le non-courage de la vérité, la haine de la vérité, la misologie. Et donc, voilà, que ce Ménon est là face à Socrate, il le menace, et la menace va jusqu'à des menaces de mort. Et que dit Socrate? Vous voyez bien, s'il rentrait dans le jeu de Ménon, il deviendrait un catcheur face à un catcheur. Il chercherait à le terrasser, à lui faire mordre la poussière, à se moquer de lui. Ce que ne fait jamais Socrate, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle l'ironie socratique. Il feint d'ignorer pour mettre en difficulté l'autre, mais il ne veut pas lui faire mordre la poussière. Et donc ça, c'est une des paroles les plus belles qui soient. Il est face à quelqu'un qui le menace, qui veut simplement le terrasser, et lui dit « mon ami ». C'est pas du tout mon ami. Donc imaginez, vous êtes devant quelqu'un qui est votre adversaire, mais pas seulement votre adversaire, à ses yeux, il est votre ennemi. Il vient pour vous vaincre. Et vous lui dites « mon ami ». C'est magnifique. C'est magnifique en même temps, mais le dialogue montre bien que Socrate a échoué. C'est pas la faute à Socrate, c'est peut-être la faute à Ménon, qui n'entend pas, qui ne veut pas écouter. Vous avez donc bel et bien là un magnifique courage de la vérité. Vous voyez, donc il y a le courage face à l'ignorance, qu'il faut toujours vaincre, parce que d'abord il faut la vaincre en soi-même, l'opinion, etc. Vous avez ensuite le courage de la vérité. C'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui ne sait rien. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien avec moi, mon ami, chercher la vérité? Parlons. Non pas ouvre la bouche, débite tes arguments, je te réduirai en cendres, mais parle, interroge-moi ou je t'interroge et tu me réponds et nous entrons dans un dialogue. C'est ça le courage à la vérité. Oui, donc c'est quelque chose d'admirable, quelque chose de très patient. Faites attention aussi au fait qu'il faut distinguer ce qui est vrai d'une part et l'idée de la vérité d'autre part. Ce que cherche le philosophe, c'est la vérité, ce qui est vrai, mais il cherche d'abord ce que signifie être vrai. Et il faut bien distinguer les deux. Ça veut dire que, Pascal l'avait remarqué, nous sommes le plus souvent, je viens d'en parler tout à l'heure, incapables de prouver vraiment. Vous voyez bien, même en physique quantique, vous voyez bien en astrophysique, il est illusoire de croire que les savants savent tout. Au contraire, ce sont des gens qui doutent, qui cherchent, qui ont des hypothèses. Voilà. Et donc, il serait faux de croire qu'il y a quelqu'un qui sait tout et qu'il faudrait l'écouter. Je parle des humains, simplement. Donc, le courage de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est non pas « je sais tout, j'ai des arguments et je suis dogmatique », mais c'est « je cherche la vérité et je commence par me demander ce que signifie être vrai ». C'est ça, ça demande du courage. Parce que je suis entouré de tellement de gens que j'admire, parce qu'ils savent tout, alors que moi, je ne sais rien. Courage de la vérité, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est cette audace, cette force qui fait que je ne me satisfais pas des réponses jusqu'alors données, que je sais que je ne sais pas et que je t'invite à méditer avec moi. Cheminons ensemble, parlons ensemble, essayons de trouver quelque chose de vrai. Je termine, je n'ai pas du tout regardé l'heure, je ne sais pas si ça va. C'est, il faut arrêter.
C'est tout, oui.
Oui, bon. Voilà, alors qu'est-ce que je veux dire? J'ai perdu mon fil. Non, c'est moi. Oui, donc ce courage à la vérité, donc, je vais terminer par une phrase de Pascal, ou presque. Vous vous rappelez, quand Pascal dit « Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme », c'est-à-dire invincible à tout le scepticisme. Que veut dire Pascal? Il renvoie dos à dos le dogmatique et le sceptique. Le dogmatique, c'est celui qui dit « Oui, je sais ». Le sceptique, c'est celui qui dit « Je ne sais pas ». Pascal montre, enfin, les renvoie dos à dos, mais en même temps, il montre qu'il y a une plus grande subtilité dans une troisième position qui n'est ni l'une ni l'autre. Quelle est cette position? Je viens de vous la dire. Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le scepticisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est sceptique, quelqu'un qui dit « je ne sais pas, je ne sais rien », etc., en fait, quelqu'un qui doute ne peut pas douter s'il n'a pas une idée de la vérité. Ça, c'est génial de la part de Pascal de l'avoir compris. Vous ne pouvez douter que parce que vous avez une idée de la vérité. Ça ne veut pas dire que parce que vous savez ce qui est vrai, mais que vous avez la pensée de la vérité, l'exigence de la vérité. Donc vous voyez bien ici ce qu'est le courage de la vérité. C'est un autre combat que le combat militaire, c'est un combat intellectuel, c'est un combat contre soi-même d'abord, contre son ignorance, contre ses préjugés, et c'est un combat au sens donc, c'est un courage, puisqu'il nous faut bien chercher ensemble la vérité. Je vous remercie.